The President's Interview with Pierre Crenesse for the French Radio and Television Network. The President's Office in the White House, Washington, D.C., May the 20th, 1961.
Nous voici dans le bureau présidentiel que vous occupez, Monsieur le Président, depuis le 20 janvier en tant que 35e président des États-Unis d'Amérique. Et pour éviter toute erreur d'interprétation, les réponses du président seront traduites par un interprète officiel.
C'est un grand plaisir de vous recevoir à la Maison Blanche et tous les peuples français.
Monsieur le Président, comment voyez-vous l'unité politique et économique de l'Europe et quelle part y prendront les États-Unis?
Mr. President, how do you see the unification, both political and economic, of Europe, and what will be the part played by the United States in respect to this question?
Well, one of the most encouraging post-war developments in the entire free world has been the economic and increasing of political unity of Europe. The United States has supported strongly this movement because we feel that a strong Europe strengthens freedom. And we have been much impressed by the leadership which France has given to that movement. We hope it will spread through Europe. I think it offers greater security for us all in the years to come. So we are very much behind your efforts in that regard.
C'est l'un des développements les plus encourageants de la période d'après-guerre. Le grand degré d'unité économique qui a été atteint par l'Europe, ainsi que les progrès dans la direction de l'unité politique. Les États-Unis ont toujours très fortement appuyé cette tendance, cette direction, étant donné que nous considérons qu'une Europe forte est la meilleure garantie de la force de la liberté. Nous admirons la direction que la France a su donner au mouvement de l'unité européenne, mouvement qui s'étend de plus en plus dans toutes les directions et toutes les parties du continent.
Pensez-vous, Monsieur le Président, que les conversations sur le désarmement reprendront au mois de juillet et qu'elles ont une chance d'aboutir?
Well, I'm most hopeful that the conversations which are taking place now at Geneva on the matter of securing an agreement with the Soviet Union on a cessation of nuclear tests will be successful. This is the easiest kind of agreement to reach because it's possible to patrol it most effectively. So far, however, we have not made the progress we had hoped to make. The insistence on a veto on all inspections makes it extremely difficult for us to set up any realistic, effective inspection and responsible inspection system, so that we have not been as encouraged as we hoped we would be. But we will keep working at Geneva, and if we can make a success there, then we can move with greater confidence into the disarmament conversations in July and August. If we fail at Geneva on nuclear testing, then our problem in disarmament will be that much more serious. So this is a very critical time for these efforts.
Nous avons un très grand espoir pour les conférences qui se déroulent en ce moment-ci à Genève pour obtenir un accord avec l'Union soviétique sur la cessation des essais d'armes nucléaires. Bien entendu, ceci constitue la partie la plus facile de la question du désarmement, étant donné qu'il s'agit là d'une question qu'il est possible de contrôler d'une manière précise. Néanmoins, nous n'avons pas fait autant de progrès dans la direction d'un accord que nous l'aurions voulu, étant donné que l'insistance d'opposer un veto à toute inspection, à tout contrôle effectif, rend la situation excessivement difficile, rend difficile la question de créer un contrôle, un système de contrôle qui serait efficace. Nous n'avons donc pas fait autant de progrès que nous avons espéré en faire dans cette direction. Néanmoins, nous avons l'intention de continuer tous nos efforts pour obtenir un accord. Maintenant, si cet accord est obtenu, bien entendu, la question sera plus facile au mois de juillet d'août. S'il n'est pas obtenu, à ce moment-là, les négociations générales sur le désarmement au mois de juillet d'août, commenceront dans des conditions extrêmement difficiles.
Avez-vous l'intention, Monsieur le Président, de fixer une limite géographique à la pénétration communiste en Asie du Sud-Est et à ne pas la laisser dépasser?
Do you intend, sir, to draw a line in Southeast Asia beyond which you will not let communist penetration to proceed?
Well, the French know more about Southeast Asia, perhaps, than certainly any Western people, and they know the difficulty of the problems involved there. The danger in Southeast Asia, as we have seen in Laos and we see now in Vietnam, is not of overt aggression across boundary lines by foreign armies, but rather by the effective use of guerrillas, which have, for example, in Vietnam, have assassinated in the last 12 months 2,000 civil officers of the government and 2,000 local policemen, and are carrying on a very vigorous effort to seize control of the government by guerrilla means. What is true there, we have seen in Laos, and we will see in other parts of Southeast Asia as time goes on. So we will attempt to assist the governments which want to remain free to maintain themselves. But it's going to be very hard and difficult road for us all in Southeast Asia.
Bien entendu, les Français connaissent mieux que n'importe quel autre pays de l'Ouest les difficultés auxquelles nous faisons face dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Le danger au Laos et maintenant au Vietnam n'est pas celui d'une agression ouverte, celui d'une agression par une armée dépassant une certaine ligne géographique qu'on peut arrêter à cette ligne géographique. Le danger est plutôt celui de l'emploi efficace des guérillas qui s'attaquent aux organisations internes d'un pays. Nous la voyons maintenant au Vietnam, où depuis quelques mois, 2000 administrateurs civils ont été assassinés, ainsi qu'à peu près 2000 agents de police. Nous pouvons nous attendre à des très grands efforts de la part de l'ennemi dans cette direction. Nous l'avons déjà vu au Laos. Nous risquons de le voir également dans d'autres parties de l'Asie du Sud-Est. Le gouvernement des États-Unis va essayer d'aider de la manière la plus efficace et la plus ferme ceux des gouvernements de cette partie du monde qui entendent combattre pour sauvegarder leur liberté. Néanmoins, ce ne sera pas là une tâche facile.
En ce qui concerne plus particulièrement l'aide aux pays sous-développés, quelles sont, Monsieur le Président, les lignes générales de votre politique à la suite de votre message spécial au Congrès du 22 mars?
Monsieur le Président, concerning aid to underdeveloped countries, what is your general policy in that respect, especially after your message, special message to Congress of March 22nd?
Well, I think there are three points to it. First, that I think that all of us who live in the prosperous areas of the West must make a concerted national and international effort to assist the people of the underdeveloped world who have their political independence, but who live on the marginal edge of existence in many cases, to move towards a better life. Because if they feel they cannot do it under a system of freedom, then they will turn to a totalitarian system. So that I think we all have to make a greater effort in the United States, in Western Europe, in all free countries that are moving ahead themselves. Secondly, I think that this effort should be based in part upon the willingness of the countries themselves to make effective long-range economic plans, which will provide, over a period of years, a better life for their people, so that we make sure that our aid is given to countries that can use it effectively and use it for the people. And third, the aid should be committed over a long period of time. One of our troubles has been that we have appropriated money by the year, and it makes it difficult to have the kind of economic planning which will bring success. A greater effort by us all. Second, a greater effort by the underdeveloped countries themselves. And third, a commitment of aid over a longer period of time to permit long-range economic planning. Those are the three principles for which we now stand.
Bien. Bien, nous avons trois grands principes dans ce domaine. Tout d'abord, nous croyons que tous les peuples de tous les pays de l'Ouest qui vivent dans des conditions de bien-être satisfaisants doivent s'unir afin d'aider les pays insuffisamment développés, c'est-à-dire des pays qui ont déjà leur indépendance politique, mais dont les peuples vivent souvent dans des conditions économiques déplorables et à peine suffisantes. Maintenant, si ces peuples ne peuvent pas augmenter leur bien-être, leur niveau de vie, sous un régime de liberté, ils auront la tentation de se tourner vers des régimes totalitaires. Ceci est le premier point. Le deuxième, bien entendu, est que nous ne pouvons aider que ceux qui veulent s'aider eux-mêmes, c'est-à-dire les pays qui entendent faire préparer des plans et mettre en vigueur des plans de développement économique qui permettront à leur peuple d'atteindre des niveaux de vie meilleurs que celui qu'ils ont en ce moment-ci. Le troisième point est celui de la nécessité de préparer des plans de longue portée. L'une des difficultés auxquelles nous, aux États-Unis, avions fait face jusqu'à présent était l'obligation de faire des plans simplement sur une base annuelle, de pourvoir des fonds, de voter des fonds sur une base annuelle. Ceci crée des difficultés très considérables. Par conséquent, les trois grandes lignes de conduite sont tout d'abord l'unité des peuples d'Occident afin d'aider les autres. Deuxièmement, l'effort de la part des peuples des pays insuffisamment développés pour s'aider eux-mêmes. Et enfin, la préparation de plans à longue échelle.
Enfin, Monsieur le Président, qu'attendez-vous de vos entretiens avec Monsieur Khrushchev?
Mr. President, what do you expect from your meeting with Mr. Khrushchev?
Well, I think it's important when there are so many serious issues which involve us both, involve the West with the Sino-Soviet bloc, that we should have some communication with Mr. Khrushchev. This is a dangerous time for us all, and if we can, by having communication, lessen the chance of miscalculation, which could lead to a very dangerous situation and hazard for all people, I think we should have those conversations. If we can reach a greater understanding on the question of testing and disarmament, perhaps on Laos, perhaps on the general matters which divide us, I think that it would make it easier for us to look forward with hope to the future. So I have not met Mr. Khrushchev, and we meet in Vienna.
Eh bien, il y a de nombreuses questions, bien entendu, et de nombreuses questions très importantes pour les pays de l'Ouest et également pour les pays du bloc sino-soviétique. Par conséquent, il semble que si une communication, si une certaine compréhension réciproque peut être établie entre les deux blocs, ceci diminuerait les dangers auxquels nous faisons face et surtout diminuerait les chances d'une erreur qui pourrait amener à un danger encore plus aigu et plus immédiat. Bien entendu, si nous arrivons à une meilleure compréhension sur des questions telles que la cessation des essais nucléaires, que le désarmement, que peut-être le Laos, peut-être même les questions générales qui séparent les points de vue de l'Est de l'Ouest, eh bien, nous en rendrons la situation plus facile pour l'avenir. Maintenant, je n'ai pas encore fait la connaissance de M. Khrushchev, et il pourrait être justement bon dans la recherche d'une telle compréhension réciproque que je fasse sa connaissance.
Bien, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et au nom de mes compatriotes vous souhaiter un bon voyage et un agréable séjour en France.
Merci beaucoup.